Nous sommes ici et maintenant sur le 95.2. Nous sommes également sur internet, ici et maintenant.com. Nous vous saluons. Vous êtes nombreux à nous écouter via ce canal, canal qui nous permet, vous le savez, d'émettre 24 heures, tandis que sur la bande FM, nous sommes censurés. Et oui, nous ne sommes présents que de 14h à 19h et de 23h à 7h du matin. Alors, comme nous l'annoncions en début de cette émission, de cette libre antenne qui va nous tenir au moins jusqu'à plus tard dans la nuit, nous sommes accompagnés ce soir de Christian Cotten. Christian Cotten, votre micro est ouvert.
Oui, bonsoir.
Rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous vous présentiez tout à l'heure, après que je vous ai annoncé comme ayant 49 ans, comme étant psychologue, et vous nous disiez, en référence à vos à l'origine bretonne de votre nom, que vous vous définissiez vous-même comme le vieil homme. Alors, si on s'en réfère à différentes littératures qui parlent de vous ici et ailleurs, vous êtes plutôt... quand même précédé d'une réputation assez sulfureuse. D'où cela vient-il exactement,
oui,
Christian Cotten?
Je ne suis pas très fréquentable. Bon, réputation sulfureuse, vous savez, le rôle du psychosociologue de toute éternité est de sauter dans les plats de spaghettis à la sauce tomate et de compter ensuite les taches sur les cravates des énarques ou des polytechniciens ou des généraux assis autour du plat de spaghettis. C'est le métier de base.
Alors, psycho...
Alors évidemment, les étiquettes après.
Alors psychosociologue, il est vrai que alors vous défendez des étiquettes qu'on peut vous coller. Il reste.
Oh non, je ne me défends même pas. Elle
même
m'amuse.
Pas.
Non, elle m'amuse beaucoup. Vous savez, François m'avait traité au mois de janvier de gourou délirant. Alors ça me va bien, ça aussi, c'est une bonne étiquette. Ouais. C'est pas un métier très facile, journaliste. Et donc, pour exciter les neurones du lecteur et lui faire acheter du papier, le vomi, les crachats, les injures, ça marche globalement plutôt mieux que les jolies peintures. Hein.
Mais pourtant, des casquettes, vous n'en manquez pas, Christian Cotten?
Paraît-il.
En 1994, vous publiez un livre de créativité psychopolitique.
Ah, vous êtes remonté jusque-là, d'accord.
Oui, ah oui, on va très loin sur ici et maintenant, pour bien s'ancrer.
Ouais, c'est pas très vieux, mais bon. Oui, bah, oui, allez. Oui, ça c'est effectivement une vieille histoire, mais c'était le début de Politique de Vie, qui est un modeste parti politique de quelques énergumènes qui, depuis quelques années, visitent un certain nombre de poubelles de la République. Certains écologistes vont sur les plages enlever le mazout à la petite cuillère. Nous renversons quelques poubelles de la Ve République et nous les mettons sur le trottoir et nous tentons de passer le Karcher dans les dites poubelles. C'est un autre travail écologiste différent. Alors, et effectivement, en 94, j'ai lancé Politique de Vie avec ce livre qui s'appelait Chômage et récession, si c'était un cadeau du ciel, qui était une façon d'initier une réflexion en se mettant la tête à l'envers par rapport à un certain nombre de réalités économiques de l'époque, qui sont toujours présentes d'ailleurs, et en tentant d'y trouver quelques pistes de nouvelles réponses, ce qui n'a pas manqué de se faire d'ailleurs. La démarche de créativité qui a été lancée à ce moment-là a donné un certain nombre de résultats, ça a fait bouillir et remuer les neurones d'un certain nombre de personnes, et de quelques centaines de personnes. Il en est sorti quelques livres, des colloques, des échanges ici et là.
Alors c'était précisément tout l'enjeu de ce parti politique que vous souhaitiez voir contribuer à une réforme de l'État français. Où en est-on aujourd'hui?
Bah, vous savez, en tant que formateur, consultant, intervenant dans les grandes entreprises et les grandes organisations, ces 15 ou 20 dernières années, j'ai eu souvent l'occasion de travailler pour l'État français. Dans quantité de cadres, je ne vais pas réciter là la liste de mes clients de ces époques-là. Et j'ai compris au fil des années une chose que comprennent beaucoup de mes confrères qui font le même métier, c'est que l'État français a une extraordinaire capacité à ne surtout pas bouger, à ne surtout pas se réformer, et à surtout continuer à faire en permanence plus de la même chose, en général en pire. Et que si l'on voulait quelque peu faire bouger cette espèce de mastodonte, il fallait être capable à certains moments de trouver des points de rupture. C'est-à-dire trouver des failles dans lesquelles on puisse faire tomber des épées pour provoquer des changements par saut quantique.
Alors on va
et pas simplement un accompagnement de micro changements par des trains de mesures ministérielles qui ne servent strictement à rien à part empirer les choses.
Alors on aura sans doute l'occasion, Christian Cotten, de revenir sur ce qu'est devenu précisément politique de vie depuis cette impulsion lancée par votre livre, celui que vous venez de citer. On va continuer cependant de faire le tour un petit peu de votre personnalité controversée, notamment des rapports ambigus que vous entretiendriez avec des sectes. Alors je résume juste un petit peu l'affaire. Une commission d'enquête chargée d'étudier le phénomène des sectes publiait son rapport le 10 juin 99. Votre société stratégique y était citée.
Oui. Depuis 96, je m'en suis souvent expliqué d'ailleurs sur cette antenne à différentes occasions, j'ai eu l'opportunité de soulever quelques couvercles de quelques poubelles délicates de l'État français, notamment du côté du ministère des Finances ou du côté du ministère à l'époque de la fonction publique sur des affaires de marché public tordues. Et comme je suis un caractériel, que j'ai assez mauvais caractère et que quand les gens m'agacent, en général, je le leur dis, et pas forcément aimablement, je me suis fâché très très fort avec un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère des Finances à l'époque, c'était 96, oui, je dis bien, à propos de marchés truqués. Alors, sans m'étendre sur le détail de cette affaire, qui est au fond assez anecdotique, j'ai commencé à partir de cette époque-là à déranger beaucoup de monde. 96, ça faisait une douzaine d'années à peu près que j'exerçais comme consultant formateur sur la place publique auprès de beaucoup d'entreprises et de grandes administrations, et j'étais relativement bien coté à l'époque. Le ministère des Finances était précisément venu me chercher parce qu'il savait que je savais faire un certain nombre de choses qui l'intéressaient. Et à partir de 96, j'ai commencé à me fâcher très fort et à dire là et là, il n'y a plus de règles. Là et là, on est dans la perversion, et la perversion, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Coucher avec les enfants, ou c'est pas mon truc, c'est comme ça. Or, l'État est en permanence en train d'obliger ses fournisseurs à entretenir des relations qui s'appellent des relations de perversité, c'est-à-dire des relations où le fonctionnaire qui est celui qui est censé faire la loi est celui qui oblige le fournisseur à outrepasser la loi pour pouvoir survivre. Et ça, c'est pas sain. Lorsque le ministère des Finances, à l'époque, m'avait demandé d'intervenir pour eux, la question du jour, c'était comment on améliore les relations du ministère avec les usagers. J'ai pas fini de leur donner ma réponse. Ça fait 6 ans que ça dure et c'est pas fini, croyez-moi. La réponse, elle est que pour améliorer les relations de l'État et des fonctionnaires avec les usagers, il faut retrouver des règles de jeu collectives qui soient claires, nettes et précises et qui ne soient pas violées en permanence par les fonctionnaires. J'ai commencé à partir de 96 à déranger beaucoup de monde. Ça, c'est pour mon histoire personnelle. Mais il y a de l'autre côté l'affaire de la chasse aux sectes, les affaires de chasse aux sectes. Ça, c'est une toute autre histoire qui n'a rien à voir avec ma petite histoire personnelle, qui est une histoire beaucoup plus complexe, qui s'origine dans les années 80, autour de personnages comme Monsieur Vivien, autour de personnages comme un certain colonel de gendarmerie devenu général depuis, un certain Morin. Nous sommes là sur des dossiers extrêmement complexes qui se croisent avec les problématiques de défense nationale et qui se croisent avec les problématiques de la franc-maçonnerie, qui se croisent avec les problématiques des trafics d'armes, et puis avec une problématique plus globale de la répartition du marché de la spiritualité entre les différents acteurs de ce marché. La France est rentrée dans une grande parano à partir de 83, 84, 85. Cette parano a augmenté de manière assez forte. Elle permettait non seulement de faire la chasse aux nouvelles minorités spirituelles, mais aussi à tout ce qui est médecine non conventionnelle et thérapie nouvelle sous des formes diverses et variées. Bon, j'ai fait partie des gens chassés au titre de la grande chasse aux sorcières contre les nouvelles minorités spirituelles ou les nouvelles thérapies. Voilà. C'est à partir de là que je me suis retrouvé avec cette étiquette secte, dont un des députés membres de la commission parlementaire a dit d'ailleurs au mois de février dans le journal Libération, à bon propos, que c'était une connerie. Effectivement, c'était une connerie parce que je suis en train de leur renvoyer la balle de manière assez désagréable. Alors le sujet sexe est un long, grand sujet. Enfin, on pourra revenir dessus si vous voulez dans la soirée.
Bah, on y reviendra notamment sur l'affaire de l'OTS.
Ça va nous emmener très loin. Là.
Oui, ça peut nous emmener très loin, effectivement. Ouais. Donc vous êtes psychothérapeute. Vous nous avez parlé de cette espèce de chasse aux sorcières envers toutes les thérapies, alors alternatives ou pas. Mm-hmm. En tout cas, en relation avec la nature, la spiritualité, etc. Mm-hmm. Vous-même, quels sont les moyens thérapeutiques que vous utilisez ou que vous utilisez? Aujourd'hui
c'est encore une autre question. Bon, moi j'ai une formation universitaire de psychologue à l'origine qui remonte aux années à la fin des années 70. Et je me suis beaucoup promené à partir de là, je me suis beaucoup promené dans différents champs et j'ai enseigné pendant une grande quinzaine d'années, 18 ans peut-être maintenant, j'ai enseigné notamment la PNL, programmation neurolinguistique, école psychologique quelque peu connue, fort décriée aujourd'hui, accusée aussi d'être une secte à elle toute seule, je vois pas trop en quoi ni pourquoi, mais enfin bon, faudrait-il encore savoir ce que signifie le mot secte d'ailleurs. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire.
Comment a évolué aujourd'hui, on va vraiment situer quelle est votre activité en ce moment même, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Christian Cotten, au niveau de politique de vie notamment,
si
on
vous
en
voulez,
est où aujourd'hui?
Jusqu'en ce début d'année, je dirigeais, animais, faisais vivre avec mes associés la société stratégique.
Oui.
En décembre, janvier, mon petit camarade Alain Vivien, président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, quand je dis mon petit camarade, c'est évidemment de l'humour gris, a réussi à avoir ma peau, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte que la société stratégique soit définitivement liquidée.
Ce n'est donc pas un choix de votre part.
Ah bah pas vraiment, non, pas vraiment. Alors certes, depuis un certain temps, j'avais décidé que je ne paierais plus jamais un centime au ministère de l'économie et des finances tant que les dossiers sales que j'ai entre les mains n'auraient pas été clairement réglés et tant que je n'aurais pas été indemnisé des préjudices que j'ai subis en 96 avec leurs infantilités et leurs magouilles diverses et variées. Alors, l'État s'est servi de cette faille et a flingué mon entreprise. Bon, là aussi, c'est anecdotique de mon point de vue. Enfin, je veux dire, c'est un peu agaçant, mais au bout de 6 mois, on s'en remet et on fait autre chose. Alors aujourd'hui, je vis beaucoup de l'air du temps. Ma femme a l'amabilité et l'obligeance de bien vouloir m'entretenir pour le moment. Voilà, je n'ai pas de source de revenus. Je travaille beaucoup, mais je fais beaucoup de choses gratuites, effectivement. J'aide ici et là un certain nombre de gens qui ont besoin d'être accompagnés face à différentes violences institutionnelles. Je pense notamment à un certain nombre de gens qui sont victimes du système judiciaire, qui est un système extrêmement violent dans ce pays. Là aussi, on pourra y revenir. Mmh. Bon, font appel à moi parce que ils me repèrent ici ou là et qu'ils ont le sentiment que je vais pouvoir les aider, ce qui est parfois vrai, parfois quelque peu illusoire, parce que j'ai pas plus de moyens que ça, même si j'ai un peu une grande gueule et que je fais savoir là où je peux ce que j'ai à dire. Et puis je passe beaucoup de temps à écrire, à diffuser toute une série d'informations et dossiers sur Internet, sur mon site, par email. Je passe d'une radio à parfois certains jours une télévision qui veut bien m'accueillir, assez rarement en France, plutôt en Belgique ces derniers temps. On pourra là aussi se poser la question de savoir pourquoi sur la première chaîne publique nationale belge, je suis accueilli très courtoisement et très correctement pour pouvoir m'exprimer, alors que les mêmes antennes me sont à peu près interdites ici, sauf les jours où, avec Antoine Schuller, en janvier-février dernier, nous mettons suffisamment de feu à suffisamment de poudre pour que là, effectivement, les médias soient bien obligés d'écouter un certain nombre de choses.
Alors précisément, Antoine Schuller, vous l'évoquez, ça fait partie de votre actualité très récente.
C'est partie de l'actualité du début de l'année. Oui,
ouais, actualité du début de l'année où on vous a vu alors présenté par les uns comme le mentor de Antoine Schuller, par les autres et notamment Didier Schuller, interviewé par
comme une secte à moi tout seul,
comme un gourou manipulateur. Ouais. Vous aviez promis en ce début d'année 2002 des révélations à la façon Sirven, les archives informatiques de l'ex-époux de Marie Laforêt, etc., etc. Tout un tas de d'affaires bien médiatiques dont Thierry Ardisson d'ailleurs s'était emparé. Depuis, plus rien. Que se passe-t-il
Bah, vous savez, pour qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait des gens qui veuillent bien écouter ce qui est à dire. Quand les poubelles sont trop sales, tout le monde est d'accord pour les refermer. Alors, ce ne sont pas deux énergumènes comme Antoine Schuller, Christian Cotten ou nos quelques copains qui vont avoir la force de soulever les poubelles quand tous les autres sont assis dessus. Comment voulez-vous faire? Et le fameuses informations dont nous avons effectivement parlé en janvier-février, il y a bien effectivement toute une série d'informations extrêmement précises sur des affaires extrêmement précises, comme par exemple le dossier Société Générale qui a été jugé il n'y a pas très longtemps, d'autres informations extrêmement précises sur le dossier de l'ordre du Temple solaire qui sont disponibles pour les autorités compétentes, pour la police, disponibles pour la justice.
Alors si vous le voulez.
Mais vous savez, je crois vraiment que les magistrats français pratiquent beaucoup trop la masturbation. Et ils sont devenus sourds. Ils sont devenus sourds.
Sourds à vos appels,
sourds d'une façon générale. Demandez à n'importe quel justiciable français. Prenez un justiciable dans la rue qui un jour a eu affaire avec la justice, puis il vous expliquera en quoi les magistrats sont sourds. Les magistrats n'écoutent que ce qu'ils veulent bien écouter et qu'ils ont prévu d'entendre à l'avance.
Alors, qu'est-ce qui vous a valu, en ce début d'année, de vous retrouver aux côtés d'Antoine Schuller?
Ce sont les hasards de la vie et les écritures surtout, enfin les hasards d'Internet ou le surf sur Internet qui permet beaucoup de choses. Ça, c'est un phénomène tout à fait intéressant parce que ça m'agace un peu certains jours de passer autant de temps à parler juste des poubelles. Il y a des fleurs qui poussent autour des poubelles. Et une de ces fleurs, par exemple, c'est Internet. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement novateur. Novateur parce que Internet échappe au contrôle des paranoïaques. Et ça, c'est assez fabuleux. Alors, il y a bien des tentatives, mais ça va trop vite pour eux. Ça va beaucoup trop vite. Et donc, les paranoïaques n'arrivent pas à contrôler Internet. Et ça, c'est une très très belle merveille de la nature, mais de la technologie.
Alors, paranoïaque, vous utilisez essentiellement ce terme pour désigner ceux qui seraient, entre guillemets, vos ennemis. C'est étonnant puisque c'est précisément ce dont ils vous accusent de paranoïa.
Bien sûr. Oui, vous savez, c'est une histoire de miroir, tout ça. Je parle assez souvent des militaires paranoïaques, ouais. J'étudie parfois de près, parfois de plus loin, selon les époques de ma vie. J'essaie d'étudier la psychologie subtile des militaires, plutôt français, quelquefois d'autres nationalités. J'essaie un petit peu de comprendre comment ça marche, un cerveau de militaire. C'est assez intéressant.
Alors vous essayez de savoir comment fonctionne un cerveau de militaire. Le Nouvel Observateur, la semaine du jeudi 31 janvier 2002, cessait à scruter le cerveau d'Antoine Schuller, présenté par la plume du journaliste comme un petit enfant paumé à l'Oedipe non résolu. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça?
Ma question, c'est qui paye? Quelle organisation mafieuse paye le journal qui écrit ce genre de choses? Ça, c'est une vraie question. Une des choses à laquelle je m'intéresse beaucoup, moi, c'est la manipulation journalistique et les techniques de manipulation de l'information et de désinformation utilisées par les journaux. Je ne sais pas qui paye les gens du Nouvel Observateur pour écrire des conneries. Ce qui est assez fascinant, c'est chez gens-là, c'est cette espèce de dérive intellectualisante, psycho, à la mort moelle-neuve en général, essayant de vendre des interprétations toutes plus débiles les unes que les autres et ayant pour but essentiellement de dévaloriser les gens. Antoine Schuller est un garçon parfaitement sain d'esprit, parfaitement équilibré pour l'âge qu'il a et la vie qu'il a eue en tant qu'adolescent ou enfant, qui est une vie un petit peu particulière. Sans doute pas beaucoup plus d'ailleurs que la vie de beaucoup de jeunes de son âge. Mais tout de même, il a été confronté à des informations un petit peu particulières. J'imagine volontiers qu'un enfant de 12-13 ans qui voit arriver Charles Pasqua chez lui pour dîner et parler de quantité d'affaires dont le même homme ne parle certainement pas sur la voie publique, ça laisse des traces dans la tête d'un adolescent ou d'un jeune de 25 ans. Mais à part ça, Antoine Schuller est un garçon parfaitement équilibré. Alors, sans doute a-t-il besoin de régler quelques comptes avec son père, mais ça c'est d'une très grande banalité, il n'avait pas besoin de moi pour le faire, et sans doute besoin de pas grand monde d'ailleurs. Là où nous sommes effectivement rencontrés, c'est que tout simplement, à un certain moment, Antoine Schuller a éprouvé le besoin très clairement de mettre sur la place publique un certain nombre de réalité qu'il vivait, alors qui effectivement lui servait à régler ses comptes avec son père, mais servait aussi et surtout à se sentir propre. Parce que à un moment, lorsque l'on est confronté à des milieux malsains qui ne jouent pas les règles de jeu communes, vous savez, j'écoute parfois mon fils qui a 11 ans, à qui l'on apprend de très belles choses sur la République française, les droits de l'homme, la Révolution, l'État français, la démocratie. Et quand j'entends ce qu'on apprend à mon fils et que je sais ce que je sais à 50 ans, j'essaie de me dire qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant de 18 ans ou de 15 ans qui découvre à quel point on se fout de sa gueule. Et Antoine Schuller a vécu ça. Il a découvert très très tôt à quel point il y avait un décalage entre le discours officiel à propos de l'État, de la République, de la démocratie et des règles de jeu collectives et le réel. Et Antoine a été confronté à ce réel le plus dur très très jeune. Et à un moment, il a éprouvé le besoin de prendre une douche, quoi. Parce que quand on baigne dans un truc merdique, sale, dans lequel de temps en temps il y a du sang, parce que les affaires de la République française, ça débouche sur des affaires de sang quand même, faut pas oublier. Pensez par exemple à Robert Boulin et quelques autres du même genre, que l'on présente comme des suicidés, alors qu'ils ont été assassinés. Quand on est confronté à ces poubelles, à un moment on a envie de se nettoyer, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Antoine? Il a rien fait d'extraordinaire. Il a dit tout haut ce que toute la classe politique savait depuis belle lurette, un homme qui a un mandat d'arrêt international délivré par un juge d'instruction sur lui, vit très tranquillement à Saint-Domingue, toute la classe politique le sait, sauf le juge. Alors, en soi, moi, ça m'est égal que ce brave monsieur Schuller habite Saint-Domingue et vive la vie qu'il vit, je m'en fous de cette histoire. Simplement, quel jeu jouons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Quelles sont les règles du jeu? Un juge est obligé de démissionner parce qu'il est coincé par son système hiérarchique. Il faut voir que l'affaire Schuller du mois de janvier là est sortie pile une semaine après la démission du juge Alphen. Mmh. C'est pour ça que les médias s'y sont intéressés d'ailleurs, parce que c'était dans la logique de la démission du juge. Le juge démissionne parce qu'il est réduit à l'impuissance. Il est censé dire à la police s'il vous plaît arrêtez telle personne. Et personne ne fait rien. Et tout le monde sait l'adresse, toute la classe politique savait, y compris le directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque, Monsieur Olivier Schrammeck, condisciple de Monsieur Didier Schuller et qui a vraisemblablement organisé, enfin pas vraisemblablement, qui a très gentiment organisé le voyage de retour de Monsieur Didier Schuller.
Alors Christian,
à quoi joue-t-on, quoi? C'est ça la question.
Alors à quoi joue-t-on et que se passe-t-il pour Antoine Schuller depuis ce début d'année 2002? C'est à lui que nous allons poser la question. Antoine Schuller, bonsoir. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Ici et Maintenant.
Merci.
Vous avez...
je t'entends très mal, Antoine. Est-ce que tu peux monter le son ou je sais pas, c'est la radio, c'est ton téléphone?
C'est le téléphone porte.
Le mélange des deux?
C'est peut-être le portable aussi, le fait que je sois dans la campagne.
Ça va mieux, là.
Super. Ça va mieux?
Oui, très bien.
Je bouge pas.
Bonsoir.
Alors Antoine Schuller, vous avez entendu que Christian Cotten évoquait votre adolescence. Alors pourquoi? Parce que je faisais allusion à un article du Nouvel Observateur que vous devez sans doute connaître, où vous étiez présenté comme un petit garçon paumé à la recherche de papa en raison d'un Oedipe non résolu. Où en êtes-vous depuis ce matraquage médiatique?
Au niveau de l'Oedipe soi-disant non résolu, au niveau des relations avec mon père, vous voulez dire?
Au niveau de cette affaire que vous avez cru révéler et pour laquelle on ne vous a pas vraiment pris au sérieux.
Personnellement, actuellement, j'étais un peu déçu de l'attitude de certains journalistes et puis du manque de compréhension de certaines personnes. Mais bon, ça n'empêche rien, dans mon combat continue. Puisque j'ai mes convictions et je sais ce que j'ai vu, puisque j'ai vu beaucoup de choses de mes propres yeux pendant de nombreuses années. C'est sûr que les choses que j'ai vues sont peut-être assez difficiles à expliquer au commun des mortels qui a du mal à être assez réceptif, parce que c'est beaucoup trop d'informations et assez grave. Donc c'est difficilement réceptif par tout le monde, mais je continue mon combat et... là, j'ai vu que mon père, actuellement, s'était remis aux affaires en France.
Tout à fait, il a déclaré récemment dans VSD qu'il se préparait à une nouvelle vie politique.
Oui, moi, je pense prochainement aller sur Clichy, puisqu'il veut être maire de Clichy, pour expliquer un peu aux Clichois à quoi ils s'attendent s'ils votent pour lui dans 7 ans, puisque les élections municipales sont dans 7 ans.
Oui.
Et ce qui leur arrivera, puisqu'il leur arrivera la même chose qui est arrivé à tous les pauvres gens qui habitaient à Levallois, beaucoup de gens qui ont été mis à la porte, qui ont été virés et mis dans des périphéries plus lointaines, pendant que les promoteurs immobiliers faisaient des contrats juteux de millions et de millions d'euros, où tout le monde se partageait des enveloppes. Ce qui va se passer sur Clichy et ce que j'aimerais pas qu'il se passe.
Alors Antoine, vous avez parlé de combat que vous aviez débuté et que vous entendez continuer. Alors ce combat, quel est-il exactement?
Le combat, c'est que la vérité éclate, que les gens soient vraiment informés, puisqu'on vit dans une société de désinformation complète, du matin au soir, où la liberté d'expression est de plus en plus limitée. Donc j'ai appris beaucoup de choses, pas seulement sur mon père, mais mon père dépendait d'autres personnes, et j'ai découvert plusieurs documents, et je sais des choses sur d'autres personnes qui sont impliquées dans... D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que toutes les affaires qui sont par exemple jugées en ce moment, les affaires politico-financières, sont toutes en fait liées par les mêmes groupes de personnes. Parce que mon père faisait partie d'un certain réseau, d'ailleurs un réseau qui l'a fortement aidé dans son évasion, qui est d'ailleurs le même réseau qui a aidé M. Sirven, puisque mon père lui-même l'a dit, et ces réseaux qui ont des fortes influences sont impliqués dans tellement d'affaires, dans la quasi-totalité des affaires qui sont importantes.
Donc si j'entends bien, c'est essentiellement par altruisme face aux pauvres citoyens perdus dans une masse d'informations fausses que vous souhaitez faire éclater la vérité?
Oui, complètement. Tout le monde, j'ai plein d'amis et tout qui me disent que je suis fou de faire ça, que ça risque des gros problèmes, etc. Et j'ai pas du tout fait ça pour l'argent, puisqu'au contraire, bon, beaucoup de gens ont fait de l'argent sur mon dos au mois de janvier, mais justement, tellement naïf que je suis et pas du tout intéressé... Beaucoup de gens ont profité de se faire de l'argent sur mon dos au mois de janvier quand l'affaire a éclaté. Et alors, ça ne m'avait rien rapporté. Il y a juste mon livre qui m'a rapporté un petit peu, mais vraiment pas grand-chose, puisqu'en plus ma promotion a été complètement annulée. D'ailleurs, je devais passer chez M. Fogiel au mois de juin quand mon livre est sorti. Uh-huh. Et la droite, les amis de mon papa, que ce soit la droite ou la gauche, de toute façon il a des amis un peu partout, est passé 3-4... l'émission qui était en direct, et on m'a contacté deux jours avant pour me décommander, alors que ça faisait un mois que c'était prévu.
Donc là, il y a selon vous...
Schuller à France 3, à l'époque.
Vous avez suivi cette affaire vous-même, Christian Cotten?
Oui, bien sûr. Oui. Nous continuons, Antoine et moi, à être en interaction très, très fréquente, très régulière, tout simplement parce que politiquement, nous sommes en phase intellectuellement sur beaucoup de choses et que nous continuons à travailler ensemble, oui, bien sûr.
Mais alors, aujourd'hui, quelle issue vous avez balancé en premier lieu votre père dès janvier 2002? Vous avez été reçu d'ailleurs très rapidement par Thierry Ardisson dans une fracassante interview.
il devait venir d'autres choses, aujourd'hui rien. Comment s'organise la suite des révélations éventuelles que vous auriez à faire, et comment s'organise concrètement le but de votre action?
Bah, depuis le mois de janvier, ce qui ça m'a permis, c'est de rencontrer beaucoup de gens qui ont le même combat. Le seul problème, c'est que tous les gens qui vont dans la même direction que moi ou que Christian ou que d'autres personnes, notre problème, c'est que nous, on n'a aucun moyen. Contrairement aux gens qui sont en face de nous, qui eux ont tous les moyens du monde. Donc c'est un peu David contre Goliath, la souris contre la montagne. Mais on se battra. On fait ce qu'on peut. Et on essaie avec nos moyens, mais il y a des réseaux qui se mettent en place, de gens qui on s'échange des informations, mais on a vraiment très peu de moyens d'action et aussi très peu de tribunes où on peut parler, puisque depuis l'affaire, on m'a pas vraiment laissé l'occasion de m'exprimer où que ce soit.
Donc là aujourd'hui, après le mois de janvier. Donc là aujourd'hui, on peut dire qu'un réseau d'échange d'informations se structure.
Oui, oui, des gens que c'est pas un réseau en tant que tel. C'est pas complètement structuré, mais c'est des gens qui sont en contact et qui s'informent et qui informent les autres. Mais il n'y a pas de structure.
Vous savez, Olivier, je te coupe, Antoine, excuse-moi, ouais. je rebondis sur la question d'Olivier. Il se passe des choses extrêmement intéressantes du point de vue du psychosociologue que je suis avec Internet, en termes de comment est-ce que une société civile réagit face à des pouvoirs totalitaires qui ne s'expriment plus comme il y a 20-30 ans à coup de camp de concentration, du moins dans nos pays, mais qui s'exprime au travers d'un totalitarisme de la pensée, essentiellement. Et donc, comment est-ce qu'une société civile réagit à ça? Et ce que l'on constate sur Internet, c'est que se créent des réseaux multidimensionnels, informels, effectivement d'échanges d'informations, de mobilisation de certaines énergies à certains moments sur des objectifs particuliers, au travers d'une pétition, au travers d'actions de pression sur les pouvoirs politiques. Et ce que l'on observe, eh bien, c'est qu'il se passe des choses à travers ça. Il se passe des choses, vous savez, moi ça fait maintenant plusieurs années que j'écris, que je diffuse un certain nombre d'écrits, soit par la poste, soit maintenant essentiellement par Internet. Je sais bien qu'il y a des effets en termes un certain nombre de messages, malgré la surdité des magistrats, malgré la stratégie d'édredon jouée par les hommes politiques, un certain nombre de messages passent. Il y a un certain nombre de pressions qui ont des effets à un certain moment.
Donc vous positionnez un petit peu dans la logique de Lucien Svetz, qui nous parle d'une pathologie sociale à la communication, qu'il appelle lui-même le tautisme, une contraction entre autisme et tautologie, qui se résumerait à « je répète, donc je prouve ». On serait dans cette espèce de totalitarisme psychologique fait de désinformation, où finalement le simple fait de dire fait acte de preuve.
C'est une analyse qui se vérifie, oui, dans un certain nombre de cas de figure. Enfin, c'est une analyse qui s'argumente, en tout cas. Il est clair que l'ensemble du système médiatique, en particulier franco-français, est un système totalement délirant. Enfin, je veux dire, s'agit-il de journalisme ou s'agit-il de chargés de communication d'un certain nombre de grandes mafias industrielles et d'un certain nombre de polices? Autrement dit, les gens qui aujourd'hui se disent journalistes, sont-ils journalistes ou sont-ils des chargés de communication de l'industrie pharmaceutique, des chargés de communication de l'industrie des industries de l'armement, des chargés de communication des renseignements généraux? Grand drame de beaucoup de journalistes aujourd'hui, c'est s'ils parlent, ils perdent leur carte de journaliste. Donc ils se taisent. Alors, comme il faut causer quand même, on bricole. On fait de la littérature pseudo-psychologique version Nouvel Observateur. J'étais pendant 20 ans lecteur du Nouvel Observateur, lecteur de Libération. Aujourd'hui, à 50 ans, je me dis, quelle escroquerie, quelle escroquerie. Une des plus belles escroqueries intellectuelles que je connaisse dans ce pays, c'est l'histoire du journal Libération, fondé par Sartre après 68, et qui est devenu aujourd'hui un journal à la solde des marchands d'armes et des laboratoires pharmaceutiques. C'est fascinant, fascinant, l'espèce de perversion intellectuelle que cela suppose, l'espèce de dérive, ce manque simplement de tenue, quoi. Ce manque de tenue intellectuelle, enfin. Où est la tenue intellectuelle? Où est l'honnêteté intellectuelle dans ce journal? Mais c'est
affligeant, affolant pour quelqu'un qui a un tout petit peu de vision historique, ne serait-ce que avec un recul d'une trentaine d'années. Mon Dieu, mon Dieu.
Alors vous parliez
la France est le pays des Lumières. le problème c'est qu'elles sont éteintes, quoi.
Vous parliez d'un drame pour les journalistes, il y a un autre drame, c'est le vôtre éventuellement, et celui d'Antoine Schouler, dans une société où l'information est essentiellement diffusée par l'intermédiaire des médias. Aujourd'hui, de quel support vous disposez? Ok, l'Internet.
Internet, et puis des aides ponctuelles ici et là de quelques amis journalistes qui... ici et là, font passer un certain nombre de choses.
C'est très rare.
Alors, depuis le mois de septembre, des portes se sont ouvertes à la radio-télévision belge. Alors ça, c'est une histoire assez sympathique.
Alors,
Les Belges ont beaucoup plus, je trouve, une plus grande liberté d'expression et des débats sont organisés. Par exemple, sur le sujet du 11 septembre, qu'il n'y en a pas eu un seul en France.
Ça, c'est clair.
Pas un seul, à ma connaissance. Pourtant, je regarde beaucoup la télé.
Il s'est passé quelque chose d'intéressant en Belgique le 3 septembre.
Oui.
Nous y étions, Antoine était présent, il y avait notre ami Jean-Pierre Joseph, un de nos amis avocats, et puis notre ami Smaïn Benrouni, qui en quelque sorte représentait là, pour partie du moins, le monde musulman. Nous étions présents à cette émission qui avait pour thème le monde musulman après le 11 septembre, quelque chose de ce type-là. Et nous avions été invités par des personnes qui elles-mêmes intervenaient formellement dans cette émission débat public. Nous étions un peu invités comme public. Et bien évidemment, il nous était possible d'intervenir et je ne me suis pas empêché de le faire. J'ai donc pris un certain moment le micro et je suis intervenu de manière un petit peu vigoureuse, comme je sais le faire dans ce genre de circonstances, pour dénoncer ce que j'appelle la grande arnaque du 11 septembre et expliquer tranquillement qu'il s'agit d'une banale opération militaire montée par un certain nombre de factions séditieuses de l'armée américaine au profit, en gros, du lobby militaro-industriel et du lobby pétrolier. Je suis donc intervenu pour expliquer cela, pour expliquer que nous faisions un appel tout à fait formel et solennel à l'opinion publique européenne et internationale pour, à terme, faire comparaître Monsieur George W. Bush
devant le tribunal international,
devant la Cour pénale internationale de la Haye pour crimes contre l'humanité, car nous estimons que l'ensemble des opérations militaires menées par les États-Unis aujourd'hui, tant de manière indirecte en Palestine qu'en Irak, qu'en Afghanistan, qui s'origine plus ou moins ou se justifie par les dits, entre guillemets, attentats du 11 septembre, l'ensemble de ces opérations constitue une arnaque intellectuelle et une manipulation de l'opinion publique internationale monumentale, et le tout, de fait, constitue un crime contre l'humanité. Le nombre de morts, aujourd'hui, se chiffre par millions et non plus par milliers, notamment en Afghanistan, notamment demain en Irak, parce que je crois malheureusement que nous n'aurons pas, ni les uns ni les autres, la force d'arrêter la machine de guerre américaine en Irak. Et il se trouve que nos amis belges nous ont écoutés. Contrairement à ce qui serait passé en France, par exemple chez Monsieur de Chavannes, où cela m'est arrivé il y a 2 ans maintenant, ou à peu près, je n'ai pas été encadré par des gardes du corps de 1m95 et de 95 kilos, comme cela m'est effectivement arrivé à la télévision française parce que j'avais dit un mot de trop, ou en tout cas qu'il ne fallait pas prononcer. Nous avons été, au contraire... accepté avec beaucoup de courtoisie.
Alors que...
et du coup, le journaliste, derrière notre intervention, qui a été très apprécié ce soir-là, sur une trentaine d'intervenants, je crois bien que j'ai été le seul à être effectivement autant applaudi ce jour-là, non pas pour la qualité particulière de ma prestation, mais tout simplement parce que je disais des choses que l'inconscient collectif sait bien. Je crois que l'inconscient collectif a compris que le 11 septembre, c'est une arnaque. Simplement, c'est terriblement difficile à l'admettre. Parce que quand un père de famille s'aperçoit que son fils a tué sa petite sœur, il est mal. Et on est un peu dans cette histoire-là, quoi. On est un peu dans une histoire comme ça. Je veux dire, les États-Unis, ce sont les enfants de l'Europe. Et les Européens ont un petit peu de mal à reconnaître que ces enfants sont devenus à moitié fous, quoi.
Alors concrètement,
enfin, du moins une partie d'entre eux.
Concrètement, quels
sont et se tuent eux-mêmes. C'est terrifiant de reconnaître ça. Qu'avons-nous ? Comment avons-nous élevé nos enfants américains ? Comment avons-nous fait pour qu'ils en arrivent là et pour qu'ils soient partis dans cette espèce de folie paranoïaque de surtechnologie militaire qui est en train de s'apprêter à détruire toute la planète, enfin, ou 80% de l'espèce humaine. C'est affolant.
Aujourd'hui, Christian Cotten, vous n'avez absolument aucun doute sur l'origine des attentats des 10 attentats du 11 septembre.
Attendez. Me faites pas non plus dire ce que je ne dis pas. Je dis qu'il s'agit d'une grande arnaque. Mmh. Le 11 septembre est une grande arnaque parce que le discours officiel américain, en gros, dit tout et son contraire et accumule les distorsions d'informations, accumule les mensonges, accumule les omissions, les faux témoignages, les bricolages, les approximations, et structure un discours totalement paranoïaque en blanc et noir, avec une accusation forcenée du monde terroriste musulman ou musulman terroriste ou arabe terroriste ou musulman arabe terroriste, mmh, etc. Enfin, vous faites toutes les associations que vous voulez là avec les mots-clés de ce champ-là. Et je dis tout simplement que rien ne s'est passé comme le discours officiel le dit. Alors, l'origine est multidimensionnelle, c'est toujours les mêmes histoires. Il est clair qu'il y avait certainement un certain nombre de fanatiques allumés, sans doute musulmans, sans doute arabes, sans doute armés de cutters dans les avions. Certainement, bien sûr.
Des gens manipulés.
Mais comme tu dis, Antoine, voilà, la grande question, c'est qui dirigeait ces gens-là, voilà, et qui les ont mis dans les avions.
Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le pédigré de la famille Bush,
par exemple.
Qui est un pédigré assez intéressant.
Question très simple. Si on part sur ce sujet, on pourra appeler aussi, quand vous voulez, Smaïn Bedrouni, et ouais, on peut continuer à tous les trois, parce que ouais, je crois qu'on connaît bien le sujet maintenant. Question toute simple, pour donner un petit peu le ton. Il y a aux États-Unis, parmi d'autres, une société qui compte dans le monde de l'armement, de l'industrie militaire, qui s'appelle la société Carlyle. La société Carlyle est un groupe financier qui notamment possède d'autres activités comme les boissons Schweppes ou 7-Up, connues dans le grand public. Et Carlyle fabrique aussi beaucoup d'armes. Et dans la société Carlyle, il y a deux gros actionnaires, deux grosses familles d'actionnaires, parmi d'autres, membres du conseil d'administration. La première famille est une famille très connue, tout autour de la planète, elle s'appelle la famille Bush. Et il y a une deuxième famille qui a payé très cher son droit d'entrée pour avoir un siège au conseil d'administration du groupe Carlyle. Il s'agit de la famille... Allez, s'il vous plaît, laquelle ?
Allez. Bush.
Non.
Ah non, pas du tout.
L'autre, son pote.
Son pote.
Ben Laden.
D'accord.
Ok, vous avez compris ?
Ok.
Bon, ça c'est du réel. Ça c'est pas des histoires. C'est pas de la désinformation.
Donc vous voyez,
c'est du réel simple.
Donc vous voyez toute la difficulté qu'on peut avoir à faire l'association, là, tout de suite, d'emblée.
Bah ouais, c'est pas facile.
Non.
C'est pas facile. Vous savez, le métier de psychosociologue est un métier qui traite notamment, une discipline qui tente de traiter d'un point de vue à peu près scientifique, les phénomènes de communication et qui s'intéresse de près ou de loin, selon les intérêts de chacun, notamment aux techniques de désinformation utilisées par toutes les armées du monde depuis la nuit des temps. La psychologie sociale en tant que discipline scientifique s'origine beaucoup dans les budgets de l'armée américaine, notamment. Il y a eu beaucoup de recherches en matière de dynamique de groupe payées par l'armée. Et en ce qui me concerne, je suis toujours beaucoup intéressé aux techniques de désinformation et à ce que je vais appeler la politique occulte et à l'histoire cachée. Je crois qu'aucune armée au monde ne dit la vérité. Et c'est sain d'ailleurs, enfin c'est sain, c'est son métier. Les militaires sont payés pour mentir. Alors, plus ou moins habilement, plus ou moins efficacement, de manière plus ou moins cohérente, mais le métier de communicateur militaire, c'est comment je m'y prends pour vendre ce que j'ai à vendre sans qu'on s'aperçoive que la réalité est tout autre. Et tous les journalistes de guerre le savent, tous les journalistes qui travaillent avec les militaires le savent bien. Un militaire normalement constitué ment. Donc à partir du moment où on a su ce qui se passait le 11 septembre. La vraie et seule et unique question à se poser, c'est qui est en train de parler ? Et qui parle de quoi ? Et dans quel but ? Et à quoi ça sert ? C'est ça les vraies questions.
Mais alors justement, quel serait précisément le dessin d'une telle sous-réalité ou sur-réalité, je ne sais pas, l'organisation d'un ordre mondial particulier ou ce serait simplement au service d'intérêts proprement personnels.
C'est très compliqué tout ça. Vous savez, après-guerre, 45, l'armée américaine a recruté, je crois, 35 000 soldats nazis. 35 000. Au regard de l'armée américaine, de la population américaine, 35 000, c'est pas beaucoup, mais enfin 35 000, ça fait du monde quand même. Ces gens-là ont eu des petits, enfin des enfants, des héritiers. Ça, c'est une chose. C'est un élément de la réalité. Un autre élément de la réalité, c'est l'histoire très particulière de la famille Bush. Monsieur George W. Bush dit dans un de ses livres qu'à la sortie de l'université de Yale, où il a fait quelques études, semble-t-il, il est rentré dans une société secrète. Si secrète, dit-il, si secrète en vérité que je ne peux rien en dire de plus.
C'est pas, je te coupe deux secondes, sa sortie de Yale, c'est à Yale.
À Yale, oui, tu as raison.
Il y a 15 personnes par an.
15 personnes par an, ouais. Sont recrutés. Alors tout ça sont des données de fait, encore une fois. Hein. Il suffit d'un petit peu travailler, et puis, puis de lire, et puis de vérifier, puis de recouper. Ce sont des données de fait qui sont aisément vérifiables, et avouées en plus, c'est ça qui est très drôle. Société secrète, qui a un nom très simple à retenir, en anglais, Skull and Bones, en français, Crâne et Os. Alors c'est assez savoureux, parce que c'est... J'allais dire c'est sexy cette histoire, ouais, c'est fascinant. Cranéos, l'insigne, le sigle de cette société secrète qui se réclame d'un folklore templier et maçonnique à la fois, comme un paquet de ce genre de société secrète, politico-affairiste et mystico-glandulaire pour être un peu méchant. Cette société secrète, Cranéos, a pour insigne une tête de mort avec deux tibias croisés derrière. C'est d'ailleurs la même chose que les Panzer Division de l'armée allemande nazie. C'est assez fascinant quand même. Et avec une idéologie derrière, qui est une idéologie guerrière, conflictuelle, sur le principe la race anglo-saxonne constitue l'élite de l'humanité. Je devrais dire... La race judéo-anglo-saxonne, parce que c'est ça leur idéologie, ces gens-là, constitue l'élite de l'humanité, et nous avons une tâche et une seule, sauver l'élite de l'humanité. Alors, si sauver l'élite de l'humanité coûte 5 millions de morts, 3 000 morts, 50 millions de morts, nos problèmes. Nos problèmes, puisque nous sommes l'élite de l'humanité. C'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que ces gens-là ne raisonnent pas comme vous et moi.
Pas du tout.
Les gens qui gouvernent, enfin les types qui sont dans la cabine de pilotage du vaisseau spatial Terre, parce que la Terre c'est un vaisseau spatial, hein, lancé à quelques centaines de milliers de kilomètres heure dans l'espace, enfin je dois dire des bêtises en termes de chiffres parce que je suis pas physicien, mais on est dans ces eaux-là. Ce vaisseau spatial a une cabine de pilotage et les mecs qui sont dans la cabine de pilotage sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux et ils raisonnent pas comme vous et moi. Alors c'est ça qui est difficile à faire. Et le problème, c'est qu'il y a personne qui contrôle ces malades mentaux-là aujourd'hui. Personne. Ils sont en autocontrôle complet et ils ont l'armement atomique entre les mains. Et ils sont en train de dégueulasser toute la planète. J'entendais ce matin à la radio, très normalisée, version France Inter, des gens très officiels, très normalisés aussi, qui parlent comme il faut, sortant de l'Organisation Mondiale de la Santé et exposant tranquillement que les cas de leucémie, de cancer avaient augmenté de plus de 100% en 10 ans en Irak et que les malformations congénitales, les monstruosités congénitales étaient dans une augmentation totalement affolante dans toutes les maternités irakiennes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'armée américaine depuis 10 ans utilise des bombes sales, c'est-à-dire des bombes à uranium appauvri. Pas enrichi, appauvri. C'est-à-dire, en clair, de la poussière d'uranium qui va flotter, se reposer dans le sol et contaminer les plantes, les animaux et les êtres humains pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, sans doute plusieurs siècles à la fois. D'accord ? Ce ne sont pas des bombes atomiques, ce sont des bombes ordinaires avec explosifs sales. C'est fascinant. C'est fascinant parce qu'on est en train de fabriquer un hiver nucléaire par petites doses. Mais on y va, là. Mmh. On y va vraiment, quoi. On y va vraiment. Et ils vont recommencer. Ils vont recommencer. En clair, c'est l'équivalent de Tchernobyl. Alors, il y a sûrement des proportions qui m'échappent, là, en termes de... d'équivalence.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Combien de Tchernobyl, combien de parties de Tchernobyl, combien de Tchernobyl, j'en sais rien, à chaque bombe de ce type-là. Mm-hmm. Mais on est dans le même type de démarche.
Ouais, c'est-à-dire d'accord que sur la durée...
Sur la durée, on est dans le même genre de film. Mm-hmm, mm-hmm. D'accord. Et aujourd'hui, la grande question, c'est comment on arrête cette folie-là, parce qu'il s'agit véritablement d'une folie. À l'échelle de l'espèce humaine, jamais l'humanité n'a fait un truc pareil. Jamais. 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 Pas même, enfin, je veux dire, même 40-45, avec toutes les horreurs de la période 40-45, on est en train de dépasser ce qui s'est passé en 40-45. D'accord? Mmh, mmh. On est en train de se préparer. C'est-à-dire que là, on est au moment où on commence à fabriquer les chambres à gaz. On est en train de faire la même chose. Et elles sont déjà fabriquées, et ça marche déjà, et c'est déjà en train de tuer. Et on ne voit pas, enfin on commence à voir, parce que les informations commencent à circuler, les scientifiques commencent à hurler, les médecins de l'OMS commencent à dire c'est quoi cette histoire, parce que évidemment en plus ils ne disent rien ou le moins possible.
Mm-hmm. Alors Antoine Schuller,
je m'énerve là.
Non.
Bah, si je m'énerve parce que il faut qu'on donne beaucoup d'amour aux fous pour les arrêter, c'est ça la grande difficulté. Vous savez, c'est un sacré boulot qu'on essaye de faire là. C'est de dire à ces militaires fous là qu'on les aime vraiment beaucoup, mais qu'on va leur mettre la camisole de force. C'est-à-dire et tout le travail, c'est de leur enlever toute crédibilité intellectuelle et morale. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que les Belges nous aident d'ailleurs, parce que là-bas, il existe encore en Belgique des catholiques de gauche. Il y en a plus beaucoup en France. Ils se sont fait écrabouiller depuis que Delors a disparu de la circulation. Uh-huh. Mais en Belgique, il reste encore une sous-catégorie de population un peu particulière, une sous-culture, une sous-sous-culture, qui est la sous-culture catholique de gauche. Et ça donne des gens qui restent encore honnêtes, démocrates, soucieux de tolérance, d'écoute et de respect des règles démocratiques. Alors du coup, avec ces gens-là, on peut communiquer.
Alors on va revenir un peu plus tard sur votre expérience belge et notamment ce qui s'est passé après votre passage sur la première chaîne nationale. Antoine Schuller, est-ce que en ce début d'année, lorsque vous décidiez de balancer, je mets entre guillemets, votre père, vous vous attendiez à intégrer la sphère de paranoïa, de folie qui est en train de nous décrire Christian Cotten?
Non, parce que bien avant, parce que, en fait, moi ça a commencé, j'ai commencé à avoir des doutes il y a déjà à peu près 2 ans sur pas mal de choses que je voyais. Mm-hmm. J'étais très naïf, hein, assez naïf. Et après j'ai rencontré une certaine personne, c'était Marie Laforêt,
oui,
qui en fait était la femme d'un monsieur qui est impliqué dans... j'ai découvert, en fait, j'ai vu les papiers, le disque dur de
ce monsieur, impliqué
dans... Antoine,
on a eu une coupure.
Une petite coupure téléphone.
Une petite coupure,
Et tu as dit un monsieur qui est impliqué dans, et puis on a eu un blanc, là.
Un monsieur qui est impliqué dans diverses...
Décidément, on n'y arrive pas. Diverses affaires, c'est ça?
Diverses affaires, vous m'entendez, là?
Ouais.
C'est mieux?
Ouais.
Donc, j'ai découvert plusieurs documents, et l'analyse de ces documents m'a fait comprendre... pas mal de choses sur ce qu'on nous cachait, sur la vérité qu'on nous cachait. Et après j'ai rencontré Christian, mais c'était plus en parallèle. Moi j'étais déjà comme dirait un certain aware de pas mal de choses qui se passaient, puisque j'ai vu des gens, des amis de mon père, des gens qui normalement, si on en regarde les journaux, etc., rien à faire ensemble, uh-huh, qui seraient officiellement plutôt même des ennemis, et qui sont en fait le soir en train de dîner très tranquillement autour d'une table de Bordeaux 75, en train de fumer le cigare et de faire du business ensemble. Et des gens qui sont vraiment pas du tout faits normalement pour être ensemble, l'opinion publique. L'opinion publique n'irait jamais imaginer que ces gens-là puissent être amis, en fait.
Selon le décor officiel, en fait.
Voilà, le décor officiel. Mais en fait, on est dans un grand théâtre. Tous les façons qui nous dirigent, en France ou dans plein d'autres pays, sont des acteurs, sont des grands acteurs. Les politiciens sont des acteurs, c'est un métier. c'est un métier d'acteur. Ces gens-là jouent un rôle, c'est de la démagogie, elles sont hallucinantes. Certains sont vraiment très très forts et sont des gens qui, même malgré des opinions officiellement opposées et des partis différents, dès que l'argent est de mise, comment dire ça, il n'y a plus de barrières.
Ouais.
On peut faire affaire.
Vous savez, Olivier, je crois que l'histoire humaine malheureusement se répète, même si elle bégaye et qu'il y a quelques différences d'un bégaiement à l'autre. L'être humain, depuis la nuit des temps, se bat pour les territoires. L'être humain se bat pour l'argent. L'être humain se bat pour les femmes. Les mâles se battent pour les femelles. C'est de vieilles histoires et ça continue. Simplement, ce qui change, ce sont les échelles. Là, voilà, la bataille pour les territoires, la bataille pour les ressources minières, pétrolières, la bataille pour le pouvoir symbolique et le pouvoir du mâle sur les femelles se joue à l'échelle de la planète tout entière. Pensez à ce qui s'est passé ces jours-ci au Nigeria. C'est assez fascinant. Ce roi que j'allais qualifier de roi nègre, sans que ça soit forcément péjoratif dans mon esprit, mais c'est en même temps terriblement pitoyable. Ce président du Nigeria qui, pour montrer son pouvoir, invente d'aller faire venir chez lui je ne sais combien de dizaines ou de centaines de femmes parmi, entre guillemets, les plus belles de la planète. Le résultat, c'est 200 morts. Alors, et donc, si on poursuit ce genre de raisonnement, la planète est entrée dans une espèce de guerre extraordinaire de chacun contre chacun pour du pouvoir symbolique, pour du pouvoir sur des territoires, pour du pouvoir sur des richesses minières. Le problème, c'est que nous avons atteint des niveaux de technologie qui nous dépassent.
Alors, avant qu'on le rappelle, vous allez nous le présenter, Smaïn, s'il vous plaît, Christian Cotten. Qui est-il? Quels sont les démêlés récents qu'il a eu avec la justice? Et en quoi ces divers démêlés viennent finalement ajouter aux propos que vous nous tenez depuis 1h20 sur cette antenne?
Moi, j'ai rencontré Smaïn Benrouni essentiellement autour du dossier du 11 septembre, effectivement. Il se trouve que mes relations personnelles dans des mondes bien informés, comme l'on dit, m'ont permis de savoir au lendemain du 11 septembre, de savoir un certain nombre de choses sur les réalités de cette affaire-là. Par des sources que je considère dignes de foi et très bien informées. J'ai découvert un certain nombre de choses, j'ai écrit assez rapidement ce que je pensais de cette affaire du 11 septembre et de l'ensemble des enjeux, de l'ensemble de la mécanique qui avait présidé à ces opérations. Et il se trouve que Smaïn Bedrouni écrivait quelques semaines ou quelques jours avant moi à peu près les mêmes choses. Et je crois même qu'il a écrit son premier article sur le dossier au lendemain du 11 septembre. Smaïn est musulman, il est plutôt bien connecté avec cet univers-là et avec lui aussi un certain nombre de sources de renseignements et d'informations fiables et précises. Bon, voilà, et nous nous sommes rencontrés sur ce terrain-là, et depuis nous travaillons effectivement ensemble. Alors effectivement, Smaïn a une histoire personnelle un petit peu particulière. Au lendemain du 11 septembre, il s'est retrouvé mis en examen pour je ne sais plus quelle formulation précise de délit pénal, mais en gros incitation à la violence, et en gros Smaïn était qualifié de terroriste alors qu'il se contentait de faire un travail de journaliste derrière son ordinateur et sur internet. Mais la France, enfin les renseignements généraux de la Creuse avaient besoin de s'occuper et la France avait besoin de montrer qu'elle s'intéressait aux terroristes au lendemain du 11 septembre. Alors lui s'est retrouvé dans le lot des gens pourchassés. Bien entendu, son dossier est vide. Il a reçu ce matin même, je crois, la levée du contrôle de police auquel il était soumis depuis le mois de septembre. Bon, il vous racontera ça lui-même.
Alors tout de suite d'ailleurs, Smaïn Bedrouni, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue sur l'antenne de radio Ici et Maintenant. Alors il y a quelques minutes, Christian Cotten, en face de moi, nous disait un petit peu qui vous étiez et quel démêlé judiciaire vous aviez pu avoir avec une issue, il semblerait, aujourd'hui. Pour autant, puisqu'on vous a en ligne, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, nous dire quel est à vous votre combat, s'agit-il d'un combat d'ailleurs, et que s'est-il passé pour vous après le 11 septembre 2001
L'histoire a commencé bien avant le 11 septembre 2001.
Oui.
Depuis quelques années, on constatait des massacres des populations de populations musulmanes à travers le monde, Kosovo, Bosnie, Tchétchénie, c'était là il y a quelques années. Et je veux dire, personne ne disait, enfin, tout le monde se taisait, personne ne dénonçait tous ces massacres. Et en tout cas, très peu de monde. Et je veux dire, l'élément déclencheur, c'était la dernière, quand l'armée russe a déclenché le bombardement de Grozny. Pendant un mois, ils ont bombardé la ville et sous les yeux de l'opinion publique internationale. Et, je veux dire, personne ne s'est soulevé, personne n'a essayé d'empêcher tout ça. Au bout de, une fois que le Grozny a été bombardé, détruite, il y a eu un blackout total au niveau des médias. Alors nous, on s'est dit, c'est pas possible, je veux dire, il y a la guerre en Tchétchénie, il y a une résistance et personne n'en parle. Alors, ce qu'on a fait, on a recherché des informations et on a commencé à donner les nouvelles. On s'est intéressé bien sûr à d'autres pays où il y avait aussi beaucoup de manipulations politiques, bien sûr médiatiques, puisque les médias suivent toujours malheureusement. Et on a essayé, on a enquêté, puisqu'on a des certaines personnes dont c'est le travail. Et la spécialité, donc, qui se sont mis à enquêter dans différents, ce qu'on appelle différents fronts à travers le monde. Et ils ont révélé, bien sûr, ils ont amené des preuves qu'il existait malheureusement un travail, une synchronisation dans tout ce qui se passait dans le monde. Et qui, bien sûr, ces synchronisations avaient comme point commun quelque chose que je ne pourrais pas citer à l'antenne maintenant. Bien sûr, parce que il aurait fallu que je vous explique d'autres choses avant. Je peux pas vous expliquer, enfin, je peux pas vous sortir ça maintenant. Vous allez pas me croire. Donc, je préfère ne pas en parler maintenant. Par contre, ce qu'on peut dire maintenant, l'affaire du 11 septembre, je veux dire, ça nous a pas étonné. Pourquoi ? Parce que ce qui se passait depuis. Ces derniers mois, les mois qui ont précédé le 11 septembre, nous ont préparé à ce qui allait se passer. Et les médias ont tout fait et ont travaillé pour préparer l'opinion publique internationale à une riposte américaine. Mmh. Simplement, une riposte américaine ne pouvait pas avoir lieu sans un élément déclencheur, et l'élément déclencheur c'était le 11 septembre. Donc quand le 11 septembre est arrivé, je veux dire si je puis me permettre, bien tombé. Ça permettait bien sûr de justifier le terrorisme d'État qui devait arriver juste après. Allô.
Oui, Smaïn, bonsoir. Ce qu'on peut rajouter là juste maintenant à tes propos qui me paraissent particulièrement pertinents et très bien complétés et tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut ajouter, c'est que l'invasion de l'Afghanistan était de toute façon déjà programmée, bien avant le 11 septembre.
Quelques mois, excusez-moi Christian, mais quelques mois avant le 11 septembre, nous avions des bulletins d'alerte du Frontier Post et même d'Afghanistan qui révélaient que des troupes américaines et iraniennes américaine, iranienne, était aux frontières de l'Afghanistan et s'entraînait pour une attaque massive sur l'Afghanistan. Je veux dire, ça n'a pas été une surprise. Il y a eu plusieurs alertes comme ça.
Techniquement, les Américains n'étaient pas capables entre le 11 septembre et quand est-ce que l'invasion de l'Afghanistan a démarré, le 25 octobre, non, ou quelque chose comme ça.
Non, début novembre.
Début novembre, oui, ouais, ok. Ouais, ouais. Un mois et demi après. Techniquement, l'armée américaine n'est pas capable en un mois et demi de se mobiliser pour envahir un pays comme l'Afghanistan. Il faut 4 à 5 mois.
Mmh. Maintenant, si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelque chose. J'aimerais vous expliquer quelque chose de très très important.
On vous écoute.
Bon, vous savez très bien que bon, j'enquête sur tout ça. Vous savez, moi, j'ai pas lâché depuis le 11 septembre, malgré toutes les pressions, malgré qu'on a essayé de me faire passer pour un terroriste, islamiste, fondamentaliste. Je veux dire, ils ont tout essayé avec moi. Je suis un petit peu habitué maintenant à tout ça, mais j'ai quand même continué mon travail et j'ai quand même continué mes enquêtes. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? En tout cas, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que il y avait au niveau de l'Alliance du Nord, maintenant on va parler de quelqu'un que je n'aimais pas trop avant et pour qui aujourd'hui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle, c'est le commandant Massoud. Ça peut sembler étonnant pour certains qui vont entendre ça ce soir. Massoud est un homme qui a été trahi. Bien sûr, il a fait du mal, il a fait des erreurs, etc. Mais il me fait quand même de la peine. Pourquoi? Parce que c'était le seul homme qui était capable d'empêcher ce qui allait se passer. Les Russes, avec l'Alliance du Nord, avec le Goulaga, etc., avaient mis au point un plan pour attaquer, pour réenvahir l'Afghanistan. Et ça, bien avant le 11 septembre. L'Alliance du Nord vendait les informations aux Russes, et en même temps, ils allaient voir les Américains et leur disaient, voilà, on a vendu telles informations aux Russes, combien vous nous payez, vous nous payez, et vous nous donnez, ils vendaient la même information aux Américains. Bien sûr, les Américains payent toujours plus, ce qui fait qu'ils ont remporté tous les marchés. À la fin, au moment où ils se sont rendus compte que les Russes avaient déjà préparé le plan et qu'ils étaient prêts à envahir, il y avait une seule personne qui était capable d'empêcher l'invasion de l'Afghanistan, que ce soit par les Russes ou par les États-Unis, c'était le commandant Massoud. Ce qui s'est passé, l'assassinat du commandant Massoud, pour moi, tel que je le vois aujourd'hui, c'est un coup monté. C'est un coup monté, et pas par des islamistes ou des Al-Qaïda, etc. Mmh. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois une grosse manipulation des services secrets qui avaient besoin de se débarrasser du commandant Massoud. Ils ont lancé... C'est quelque chose de très grave, ce que je suis en train de vous dire. Si je me permets de vous le dire aujourd'hui, c'est parce que quand même, j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir en parler et pour pouvoir le dire à l'antenne. Et en plus, moi, ça me protège quelque part, parce que je peux pas garder ça comme ça. Le commandant Massoud aurait été même capable de s'allier avec les talibans pour empêcher toute invasion, qu'elle soit de la part des États-Unis ou de la part de l'URSS, enfin des Russes.
Peut-être faut-il préciser en quoi l'Afghanistan est un enjeu militaire aussi important.
Oui, tout à fait.
Parce que sinon, c'est à la limite incompréhensible. Pourquoi est-ce que les plus grandes armées du monde iraient se battre pour... Allez, j'exagère, mais quelques arpents de montagne.
Alors c'est vrai que l'argument avancé par certains concerne les richesses pétrolières.
Oui, il faut être clair, il faut être très clair. L'essentiel de l'économie mondiale actuelle est toujours fondé sur les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies noires de la Terre. Le charbon, l'uranium et évidemment le pétrole. Et je crois qu'il n'est pas inutile de simplement rappeler que les plus grandes richesses pétrolières actuelles sont grosso modo autour de la mer Caspienne, dans les pays du sud de l'ex-URSS, les pays musulmans, essentiellement musulmans, et puis en Irak, bien sûr l'Arabie Saoudite derrière. Sans doute la première réserve mondiale actuelle, c'est l'Irak et la seconde ou la première, tout dépend comment on compte, toutes les réserves autour de la mer Caspienne. Or, pour récupérer ce pétrole, il faut pouvoir faire tracer la route aux pipelines et notamment au travers de l'Afghanistan. Les sociétés américaines travaillent la question du pipeline au travers de l'Afghanistan depuis plusieurs années, bien avant le 11 septembre. Notamment, une société comme la société Enron est impliquée dans les négociations pétrolières, enfin de construction du pipeline au travers de l'Afghanistan. Et je crois qu'il y a un enjeu là qui est un enjeu majeur. Alors il y en a d'autres, c'est pas le seul enjeu.
Oui, Christian, il y a l'opium aussi.
Il y a la drogue, voilà, il y a les drogues, l'opium. L'argent de l'opium afghan sert à l'armée américaine, et en particulier à la CIA, à financer un certain nombre d'opérations qui ne sont pas finançables sur les budgets officiels.
Smaïn, vous confirmez
ah oui, tout à fait,
l'usage de l'argent de la drogue
ah oui, bien
afghan.
Sûr. Mais le 11 septembre, au soir, j'ai publié un article donc sur Estecom.net que j'ai envoyé donc à TF1, France 2, France 3. J'ai envoyé à la presse algérienne, marocaine. Enfin, j'ai envoyé ça aux quatre coins du globe. J'ai envoyé en Tchétchénie d'ailleurs aussi. En Arabie Saoudite, en Algérie, j'ai dit le Maroc, et bon, c'est un petit peu ce qui m'a sauvé. Moi, je pensais que j'allais me faire assassiner. Je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Si on peut essayer d'empêcher une guerre, de toute façon, il faut alerter l'opinion publique. Je pensais que les médias allaient suivre. Malheureusement, ils ont très mal suivi. Je me suis fait lyncher par la presse aux ordres. Et bon, ça, je le déplore toujours aujourd'hui. Mais dans ce papier, j'écrivais que je posais la question, à qui profite le crime? Et c'était la première question qu'il fallait se poser, et j'ai présenté quelques petites idées comme ça, et qui tenaient, hein, bien sûr, la suite des événements est venue confirmer qu'effectivement, ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. C'est une manipulation orchestrée par les services américains.
Alors, autre élément que j'ai en ma possession et qui viendrait éventuellement abonder dans votre sens, un article du Monde, daté dimanche 24, lundi 25, qui nous annonce que l'Afghanistan, un an après la chute des talibans, est redevenu premier producteur d'opium. La culture du pavot a retrouvé le niveau record à la fin des années 90.
Voilà, oui, tout à fait.
C'était le but. Hein.
C'était un début, bien sûr.
Ouais.
C'est un début parce que l'argent de la drogue alimente de manière considérable l'économie mondiale, l'ensemble des circuits financiers,
Les narcodollars représentent plus de 2000 milliards de dollars par jour dans l'économie mondiale.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais, c'est considérable. Et donc, ces comptes talibans étaient contre la drogue. Alors, attendez, faut arrêter ça, quoi.
Ils avaient quasiment éradiqué la production de drogue, enfin la production d'opium en Afghanistan, sur tout le territoire. Ils allaient recevoir le premier prix, enfin de vous savez l'organisme américain l'Observatoire international des drogues.
Oui.
Ils allaient recevoir le premier prix, et ça c'était historique au niveau. Je veux dire, personne au monde n'avait aussi bien combattu contre la drogue dans aucun pays. Et donc, d'ailleurs, dans cet observatoire, il y avait, je crois, 770 ou 700 personnes, les chiffres, je pourrais vous les redonner plus tard, qui étaient payées uniquement parce qu'ils étaient au courant que l'Afghanistan avait carrément, enfin, les talibans avaient éradiqué la production d'héroïne, enfin, d'opium, pardon. Ils savaient qu'il n'y avait plus de production et ils se taisaient. Ils ne devaient pas fournir l'information, diffuser l'information.
Oui, je crois que pour bien comprendre toute cette histoire, effectivement, c'est intéressant de comprendre quels sont les enjeux de la guerre dans laquelle les États-Unis sont partis aujourd'hui. Il y a le pétrole, il y a l'argent de la drogue, il y a aussi, et peut-être surtout, les budgets militaires. Aujourd'hui, le budget de la défense américaine est un des budgets les plus gigantesques de l'histoire militaire de l'humanité, et derrière cela il y a toute l'économie américaine qui tente de survivre et de garder son hégémonie industrielle au travers des budgets militaires. L'économie américaine aujourd'hui est dans une situation qui n'est pas brillante, loin s'en faut, et elle a terriblement besoin de l'industrie militaire pour survivre. Or, pour justifier au regard des contribuables américains l'augmentation énorme des budgets de l'armée, le budget de l'armée américaine aujourd'hui est plus important qu'il était au temps de la guerre froide. Je crois qu'il faut bien voir les choses dans une perspective historique. La chute du mur de Berlin a été une catastrophe pour les budgets de l'armée américaine. Comment l'industrie américaine survit-elle face notamment à ses concurrents, parce qu'il y a des concurrents à l'industrie américaine de l'armement, qui sont notamment les concurrents européens, comment cette industrie-là survit-elle sans la guerre froide? Il faut réinventer une guerre. Alors, où allons-nous trouver un ennemi? La Chine, le Japon, injouable, l'Europe, injouable, qu'est-ce qui reste? Les musulmans. Alors, fabriquons une guerre contre l'islam. développons celles qui existent déjà, renforçons-les, et cela va permettre de redéployer les budgets de l'armée américaine. Et c'est exactement ce qui se passe depuis l'arrivée de George Bush au pouvoir. C'est hyper clair, il suffit de prendre les chiffres, je ne vais pas vous les citer parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais allez voir, l'auditeur peut se reporter aux deux livres, notamment à trois livres qui me paraissent intéressants et importants de lire sur le dossier du 11 septembre.
Oui.
Les livres de Thierry Messant aux éditions Carnot, le premier s'appelle « L'effroyable imposture », le second s'appelle « Le Pentagate ». Ces deux livres font un bilan extrêmement documenté, extrêmement solide, extrêmement sérieux sur l'arnaque du 11 septembre, notamment le second livre avec l'expertise d'un militaire français, Pierre-Henri Bunel, expert en balistique et effet des armes, enfin des explosifs. L'expertise de Bunel est extrêmement claire, elle est limpide. Ce qui est tombé sur le Pentagone le 11 septembre n'est pas un avion, comme on a tenté de le faire croire à l'opinion publique internationale, sans jamais montrer un seul débris, ni une seule photo d'ailleurs, mais c'est effectivement un missile. Pierre-Henri Bunel donne, en gros, il ne donne pas le numéro du missile, mais c'est tout comme il donne le type de missile effectivement utilisé. Bon, c'est une démonstration magistrale, effectivement, de l'arnaque du 11 septembre. Ces deux livres sont globalement très très bien documentés. Un troisième livre est intéressant aussi, paru récemment par un auteur belge, Peter Franssen, aux éditions EPO en Belgique, à Anvers. On le trouve très bien distribué en France, qui s'appelle « Pourquoi ont-ils laissé faire les terroristes le 11 septembre ?»
Les pirates de l'air.
Pardon ?
Pourquoi ont-ils laissé faire les pirates de l'air ?
Pourquoi ont-ils laissé faire les pirates de l'air
voilà. Okay, merci. C'était juste une parenthèse. Okay.
Et ces trois bouquins donnent un tableau extrêmement clair et saisissant de l'ensemble de la problématique du 11 septembre. Si on revient aux enjeux...
Christian Cotten, avant d'en venir aux enjeux, comme nous ne disposons que de deux lignes téléphoniques et que je souhaiterais que les auditeurs interviennent, on va se tourner vers Antoine Schuller. Antoine Schuller, vous êtes toujours à nos côtés ?
Oui.
Alors, vous l'avez compris, j'ai besoin d'une ligne téléphonique.
Ouais.
Je vous remercie d'être intervenu dans le cours de cette émission. Que va-t-il se passer concrètement pour vous demain par rapport au combat initial qui vous concerne et qui concerne la politique intérieure française et le cas particulier de votre père, Antoine ?
Le cas de mon père, je vais m'en occuper, entre guillemets. Je vais essayer de faire comprendre aux gens qui sont à circonscription et veulent être élus, les dangers que ça peut représenter. Sinon, pour le reste, je combats toujours avec mes amis, Christian, en l'occurrence, et d'autres personnes, et j'ai l'intention de faire une suite à mon livre, qui sera pas vraiment une suite, parce que mon premier livre était plutôt basé sur mon adolescence et sur ce que j'ai pu voir étant jeune. Là, ce sera beaucoup plus technique et beaucoup plus placé sur les affaires concrètes et les liens entre différentes personnes qui sont plus qu'étonnants.
Et peut-être, Antoine, peux-tu rajouter qu'en attendant, tu cherches à trouver quelqu'un qui te prête un appartement pour pouvoir t'héberger, parce que tu es à peu près à la rue, faute de revenus et faute de pouvoir trouver aisément un emploi, parce que le nom que tu portes est un peu lourd à porter.
En plus, comme j'ai pas d'emploi pour louer quelque chose en ce moment en France, c'est le parcours du combattant. Puis je vous demande 3 mois de caution, 1 an de CDI, etc. Et qu'avec mon nom, on peut pas dire que beaucoup de portes soient ouvertes.
Vous avez tenté les HLM ?
Non.
Non, pardon.